Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Agnès Bonfillon.
Et Hortense Crépin pour le journal. Bonjour Hortense.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Il avait 15 ans, il était passionné de boxe. Ayman, ce jeune de Bondy, tué par balle vendredi.
Deux jours après sa mort, l'enquête se poursuit. Deux frères de 17 et 27 ans sont en garde à vue après s'être présentés à la police. Indifférents aux motifs toujours inconnus, les opposaient visiblement à la victime. Ayman a été touché alors qu'il se trouvait dans le centre de loisirs de la ville. Le coup de feu a été tiré depuis la fente de la boîte aux lettres. Le père de l'adolescent se trouvait près de lui et vous avez pu échanger avec Nicolas Burman.
Oui, c'est un père abattu, la voix cassée par le chagrin avec qui RTL a pu discuter. Vendredi, il est appelé par la maison de quartier Nelson Mandela à Bondy. Son fils, Ayman, y suit des activités durant les vacances scolaires. L'adolescent de 15 ans vient d'être agressé par deux jeunes sur le chemin. Les animateurs demandent au père de famille de venir au plus vite.
À 16h48, j'étais au centre pour voir mon fils. J'ai dit maintenant, il faut qu'on trouve une solution. Ils vont taper encore. Je dis, c'est pas possible. Ça se passe comme ça ici, dans le quartier. Et ils m'ont dit, non, il faut rentrer à l'intérieur. On va rester à l'intérieur, on va calmer les choses, on va parler un petit peu.
Quelques minutes plus tard, deux individus sur un scooter s'engagent dans cette rue pavillonnaire, s'arrêtent devant le bâtiment. Un homme casqué descend, une arme de poing à la main. Il s'avance vers la porte d'entrée.
Quand il est arrivé, il a poussé la porte. La directrice a dit, c'est lui, il ne faut pas ouvrir la porte. L'autre, il a tiré une balle, quoi. Elle a touché mon fils, quoi. Il a resté debout quelques secondes. Il a mis sa main. C'est sa poitrine. J'ai dit, t'as mal où ? Et bien, j'ai vu mon fils allongé par terre.
Depuis l'extérieur, le tireur abat l'adolescent de sang-froid. Il agonise sur le sol, perd beaucoup de sang. Paniqué, son père appelle les secours.
On est resté à côté de lui, mais on a vécu. Le visage, ça commence à changer, ça commence à devenir bleu et tout ça. Les pompiers sont arrivés. Ils ont vu les premiers secours. Presque 40 minutes avec lui. Après, le médecin il m'a dit, monsieur, on ne peut rien faire, c'est hémorragie interne. Je lui ai touché la main, mais il ne répondait pas. Après là, j'ai compris que c'est bon, c'était trop tard.
Le garçon décède sur place, malgré l'intervention des pompiers et du SAMU.
Et tout a donc commencé par une simple altercation à l'extérieur, Nicolas.
Oui, l'enquête devra déterminer ce qui s'est passé précisément. Mais selon les premiers éléments, un différend opposait la victime et ses agresseurs depuis près d'un an. On ignore encore son origine. Ayman est décrit par ses proches comme un adolescent gentil et serviable. Passionné de boxe, il était inscrit dans un club de sport local.
En fait, c'est quelqu'un tellement il est gentil. Il y en a qui profitent de sa gentillesse. Il ne dit jamais non. Il n'a jamais me fait un problème. Il m'a jamais ramené ou il a volé ou il m'a ramené un truc. Jamais il a dépassé les limites. Même il est parti, je vais faire de lui.
Aujourd'hui, le père de famille veut connaître les responsables de l'assassinat de son fils.
Devant la justice, je ne vais pas les pardonner. Elle applique la loi maximum. Et ce sera la leçon pour les autres qui jouent avec la vie des autres. Moi, j'ai perdu mon fils. C'est quelqu'un qui l'a pris une partie de moi. Comme ça, bêtement, comme ça, gratuitement. Pour un jouet, je ne l'accepte pas ça. Je ne l'accepte pas. Ça arrivait à mon fils. Demain, ça va arriver à mon voisin. Non. Je ne peux pas ramener mon fils, mais pour moi, ça me fait mal.
D'origine algérienne, il souhaite inhumer son enfant au pays. La famille réfléchit à organiser une marche blanche pour lui rendre hommage dans les rues de Bondy.
Le témoignage du père d'Ayman recueilli par Nicolas Burnan.
9h04 sur RTL. Nice et Dunkerque toujours confinés, et ce jusqu'à demain matin, 6h.
Et cela pour tenter de freiner la propagation du coronavirus. Dans la commune du Nord, le taux d'incidence a dépassé les 1000 cas pour 100 000 habitants. Mais ce confinement du week-end s'étend aussi dans les terres et donc dans des zones plus rurales. Exemple à Vescapelle, un village de 650 habitants où vous êtes rendu Antoine Decarme.
Sur l'unique petite route départementale qui traverse ce village, confinement ou pas, il n'y a pas foule. Autour des maisons en briques rouges, il y a des grandes étendues vertes de terres agricoles. Rémi ne se sent pas vraiment oppressé par le Covid.
Un petit village comme Vescapelle comparé à Dunkerque, tout va bien. On entend les oiseaux, c'est tout campagne. On n'a pas de magasin, rien. Le premier magasin, il est à Wormhout, à 10 km. Donc, au moins, les petits villages, ils auraient dû les laisser tranquilles. Voilà.
Malgré tout, ici, on se plie au confinement pour s'occuper. Marie et Frédéric font des travaux. Contraint et forcé.
On trouve ça un peu comme une punition en fait. On se sent pas concerné par ce pic. Petit village de 600 habitants.
Toute la bande côtière de la CUD, c'est
beaucoup plus dense en population que la campagne ici.
Mais pourtant, les cas augmentent bien dans les Hauts-de-Flandre. Pour André Figoureux, le maire de Vestcapelle et président de l'intercommunalité, le manque de télétravail y est pour beaucoup.
Vous voyez la maison qui est là-bas? Écoutez, la dame travaille sur Dunkerque. Elle a été contaminée, toute la famille a été contaminée. La dame également a conduit ses enfants à l'école et tout son petit groupe a été contaminé.
Et c'est comme ça que le taux d'incidence est grimpé en flèche, passant de 449 à 844 cas pour 100 000 habitants en une seule semaine.
Le reportage d'Antoine Decarne. Et le variant anglais est notamment en cause dans l'agglomération de Dunkerque. Il concerne désormais plus d'un cas sur deux dans le pays. C'est ce qu'annonce ce matin dans le journal du dimanche le directeur général de la santé. En cette veille de rentrée pour la zone C, Jérôme Salomon a donc donné de nouveaux indicateurs sur la situation sanitaire du pays, Aurélia Valarie.
Oui, alors, comme vous le disiez, Hortense, le plus inquiétant aujourd'hui, c'est que le variant anglais est désormais devenu majoritaire. Un variant qui est connu pour se propager plus rapidement que la souche d'origine. Il représente aujourd'hui 53% des cas. Une évolution rapide, sachant qu'il y a deux jours, on était à 49%. Et l'une des conséquences de cette évolution, c'est que l'immunité collective va être plus difficile à atteindre. Jérôme Salomon estime que pour freiner la propagation, 80% des Français doivent être immunisés et on en dénombre seulement environ 20% aujourd'hui. Mais le directeur général de la santé se veut tout de même rassurant. Il estime que le confinement est encore évitable si des mesures strictes sont appliquées dans les établissements scolaires. Pour l'instant, il l'affirme, le protocole mis en place est efficace. Un protocole qui se verra d'ailleurs renforcé avec l'arrivée des tests salivaires.
Merci Aurélia. Et la question de la crise sanitaire sera notamment au programme du grand jury RTL Le Figaro. LCI, rendez-vous à midi sur RTL.
On fait une pause et dans un instant sur RTL, faut-il dépénaliser l'usage du cannabis? L'Assemblée nationale a étudié la question.
RTL Matin. RTL Matin. Avec Agnès Bonfillon.
Et Hortense Crépin pour la suite du journal. Il est 9h08 sur RTL. Le cannabis pourrait-il être dépénalisé? L'Assemblée nationale s'est en tout cas saisie de la question, Hortense.
Oui, à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, une mission d'information initiée par des députés de tous bords est créée sur le sujet. Et une consultation citoyenne sur l'usage du cannabis récréatif se termine aujourd'hui. Ces résultats doivent être dévoilés mi-mars. Mais pour le député La République En Marche et rapporteur général de la mission Jean-Baptiste Moreau, c'est déjà un succès. 150 000 personnes y ont participé.
Il y a une participation record pour ce type de consultation sur le site de l'Assemblée nationale. Je pense que la population est beaucoup plus mûre que la classe politique sur cette question. J'espère qu'on s'en emparera non seulement pour un débat au moment de la présidentielle, mais surtout après la présidentielle et arriver à enfin sortir de l'hypocrisie et de la lâcheté dans laquelle on est, puisqu'on voit bien que la plus mauvaise des situations, c'est celle que l'on connaît actuellement avec une interdiction qui non seulement n'est pas respectée, mais qui comporte un certain nombre de déviances catastrophiques pour la santé de nos enfants et pour la sécurité publique dans un certain nombre de quartiers.
Le député Jean-Baptiste Moreau répondait à Marie Mollet.
On passe au sport, suite et fin de la 27e journée de Ligue 1 ce dimanche.
Après la victoire hier 4-0 de Paris à Dijon et la défaite de Bordeaux 2-1 face à Metz, 7 autres rencontres au programme aujourd'hui. À 13h Monaco-Brest, à 15h Reims-Montpellier, Lorient-Saint-Etienne, Nîmes-Nantes, Angers-Lens et à 17h Lille-Strasbourg et puis en clôture de cette 27e journée à 21h, le 101e Olympico de l'histoire entre Marseille et Lyon. Rendez-vous dans RTL Foot à 20h et avant cela, à 19h30, la ministre déléguée au sport Roxana Maracineanu est l'invitée dont refait le sport. Elle planche notamment sur le dossier des matchs tests pour permettre au public d'assister à nouveau à des compétitions sportives. Les supporters de foot, c'est justement le sujet du baromètre Odoxa pour RTL et Winamax cette semaine. 65% des Français sont favorables au retour des supporters dans les stades, Nicolas Georgerot.
Oui, les Français interrogés souhaitent dans leur majorité un retour des supporters et une occupation des stades à hauteur principalement de 25%, un siège sur quatre. Tendance encore plus forte chez les amateurs de foot, 87% veulent revenir en tribune. L'image des supporters reste contrastée, 55% des Français en ont une mauvaise opinion, 69% des amateurs de ballon rond une bonne opinion. Les mouvements d'humeur récents, voire même les incidents comme à Marseille, n'ont pas eu trop d'impact, la courbe est quasi stable par rapport au baromètre de 2019. 52% des personnes sondées considèrent en revanche que l'avis des supporters est trop pris en compte dans le fonctionnement des clubs. Enfin, pour 70% des amateurs de foot, sur les questions de l'identité et de la culture du club, les supporters doivent être consultés. Mais sur le choix du président, de l'entraîneur, du recrutement des joueurs, ils sont une majorité, autour de 60%, à penser que les dirigeants des clubs doivent avoir les mains libres sur ces sujets.
Les résultats analysés par Nicolas Georgerot.
Pour terminer, Hortense, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'antichambre des Oscars.
Et les Golden Globes ont lieu cette nuit. La cérémonie récompense les meilleurs films et séries de l'année. Et plusieurs Français ont bien des chances de repartir avec un trophée doré, Stéphane Boutsock.
Oui, et le successeur tricolore de Jean Dujardin s'appelle peut-être Tahar Rahim, l'acteur révélé il y a 10 ans dans Un prophète de Jacques Audiard et nommé comme meilleur comédien dramatique pour son rôle époustouflant dans Désigné coupable. L'histoire vraie d'un jeune Mauritanien emprisonné durant 16 ans sans raison par le gouvernement américain à Guantanamo. Tahar Rahim sera face notamment à Anthony Hopkins, la star du Silence des agneaux, est nommée dans un film français, Le Père, mis en scène par Florian Zeller, adapté de son roman et de sa pièce. Zeller, dont c'est la première réalisation, signe un coup de maître, également en piste, dans les catégories du meilleur film, de la meilleure actrice dans un second rôle et du meilleur scénario. Côté Frenchie, ajoutons le compositeur Alexandre Desplat, habitué de la compétition, nommé pour la musique du dernier Clooney, Minuit dans l'univers, et notre candidat dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère, 2 de Filippo Meneghetti. Verdict donc la nuit prochaine, au cœur d'une 78e cérémonie revue et corrigée façon protocole sanitaire.
Stéphane Boutsock. Et pour les résultats, ce sera notamment à suivre dès 4h30 demain sur RTL.
Merci beaucoup Hortense Crépin. Michel nous dit qu'il fait un peu frais mais grand soleil dans la Saône-et-Loire. C'est un petit peu la tendance, non?
Je croyais que vous m'appeliez Michel.
Bah oui, mais oui Martine, allez-y.
Alors, oui, alors Jocelyne, donc frisqué partout. Donc c'est vrai, il fait froid partout ce matin. Ça va grimper quand même cet après-midi. Hein. 10 à 14 degrés pour la moitié nord, 14 à 17 pour la moitié sud. Côté ciel, c'est plutôt pas mal. Hein. Toute la moitié nord et l'est du pays sont déjà sous soleil ce matin. Pour un gros quart sud-ouest, en revanche, c'est un petit peu plus mitigé, surtout sur la région Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon. C'est là où on aura le moins de soleil. Hein. Le Languedoc-Roussillon aujourd'hui, il y pleut ce matin. Et puis, les averses vont peut-être se décaler un petit peu sur la région Midi-Pyrénées dans l'après-midi. Partout ailleurs, il fera beau. Donc, c'est une bonne nouvelle.
Merci beaucoup, Céline. Les courses ont lieu ce dimanche à Vincennes. Les pronostics.